Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des familles à faible revenu, de Richard Martineau qui est victime de propos haineux, des crimes graves qui sont en hausse à Montréal, de la fumisterie du cannabis médical, d'une victoire pour un couple gay en Thaïlande et des bonnes nouvelles du jour en rafale. Débutons par cet article intitulé « Le Québec a un préjugé favorable pour les familles à faible revenu ». Voici ce que nous dit Le Devoir. Peu de gouvernements ont un parti pris fiscal aussi marqué en faveur des familles et des plus démunis que celui du Québec, constatent des experts. Le Québec arrive en tête pour la charge fiscale nette la moins lourde à l'égard des familles à revenus modestes avec enfants dans une comparaison avec les 34 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique qu'on appelle l'OCDE. C'était même le seul endroit en 2004 où un couple avec deux enfants de 6 et 11 ans vivant avec un seul salaire égal à la moyenne, 45 000 $ au Québec, recevait un peu plus en prestations sociales qu'il ne payait d'impôts et de cotisations sociales obligatoires, soit de l'ordre de 309 $. Donc, ce qu'on nous dit essentiellement, et je vous invite à lire l'article, c'est que les familles à faible revenu, les familles les plus démunies, reçoivent davantage ici au Québec. Et donc, c'est important qu'on puisse prendre soin des familles à faible revenu. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de politique, on peut faire mieux, on peut faire plus, mais si on se compare avec les 34 pays qui sont membres de l'OCDE, eh bien, on se débrouille assez bien ici au Québec. Le désavantage qu'on note dans cet article, c'est que ce qui arrive, c'est que quand une nation est trop généreuse envers des familles à faible revenu, ça diminue l'intention de ces familles-là de faire un effort pour aller chercher, par exemple, des ressources ou des revenus supplémentaires. C'est la tendance humaine qui est remarquée. Maintenant, est-ce qu'on peut se plaindre de ce qu'on aide, de ce qu'on est généreux? Non. Maintenant, il faut être vigilant. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Et il faut s'assurer, justement, qu'en tant que nation, on puisse contribuer à la lutte contre la pauvreté. C'est une responsabilité, oui, qui est donnée, justement, aux individus et à l'Église de prendre part à cette lutte contre la pauvreté, de se mobiliser contre la pauvreté. Maintenant, l'État a un rôle à jouer là-dedans, c'est clair, puisque c'est un ensemble collectif. Mais elle doit s'assurer que dans toutes les classes de la société, il puisse y avoir une contribution à l'économie et une saine redistribution des richesses. Alors moi, ça me réjouit de voir que les familles à faible revenu, eh bien, sont mieux traitées ici. Est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'on peut faire mieux? Toujours. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'asseoir sur nos lauriers? Jamais de la vie. Maintenant, si Québec se porte à la défense des familles à faible revenu, eh bien, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, elle, ne se porte pas à la défense de Richard Martineau. Richard Martineau, qui est un journaliste, qui écrit régulièrement, un chroniqueur sur la plateforme du Journal de Montréal, eh bien, Richard Martineau ne se plaint pas... Comment je pourrais vous dire ça? Richard Martineau n'a pas sa langue dans sa poche, ni sa plume dans sa poche. Richard Martineau s'est critiqué, s'est dénoncé. Et là, comme je vous l'ai dit hier, Denise Bombardier a critiqué un article, a critiqué les propos de Richard Martineau. Elle l'a fait avec beaucoup de classe et avec beaucoup de détermination. Mais là, on va un peu plus loin ici. Parce que Marc-André Cyr, qui est professeur à l'UQAM, est invité par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec à un cabaret sur la liberté de presse. Mais c'est vous ce qui arrive? Et ça, c'est ce qu'on apprend sur la plateforme du 98.5 FM. Je vous le lis. Cyr a publié sur le site Ricochet une notice nécrologique très violente de Richard Martineau. Deux caricatures accompagnent son propos. L'une montrant un chien qui pisse sur la pierre tombale de Martineau, l'autre où Dieu met le chroniqueur à la poubelle à la porte du ciel. Habitué de la controverse, Richard Martineau n'en revient tout simplement pas que la FPJQ invite cette personne dans un de ses événements. Et donc, ici, on a des propos haineux, des propos injurieux, des propos qui sont condamnables. Ça, c'est une chose. Mais que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec invite celui qui profère des propos haineux à un événement, eh bien, ça, c'est pas rassurant, d'une part. Mais ce qui est blessant pour Richard Martineau, et là, vous allez penser que moi, je défends Richard Martineau parce que c'est mon ami, parce que je l'aime bien. Souvent, je suis en désaccord avec la perspective de Richard Martineau. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis en désaccord avec lui, qu'on doit le traiter de cette façon-là. Mais ce qui est blessant pour lui, c'est que son ami Patrick Lagacé, ou du moins son collègue, eh bien, va faire partie de ce colloque-là, et jusqu'à nouvel ordre, à moins que les nouvelles nous apprennent un changement, Patrick Lagacé va faire partie de ce rassemblement-là, ainsi que sa collègue du Journal de Montréal, Lise Ravary. Et vous savez que récemment, on a critiqué le projet de loi 59 qui porte ce titre « Loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. » En d'autres mots, c'est le projet de loi sur les propos haineux, si on résume ça à sa plus simple expression. Il y a des journalistes, il y a des gens publics qui disaient « Non, 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 c'est pas bon ce projet de loi-là parce que justement, ça va museler la liberté d'expression. » Bien, ici, on a un cas très clair. Si on avait cette loi-là, mesdames et messieurs, en vigueur, Richard Martineau aurait des recours pour intervenir. Mesdames et messieurs, qu'on soit en désaccord, qu'on démolisse un argumentaire ou par des propos qu'on contredise une personne, ça a sa place. Ça fait partie non seulement de la démocratie, mais de la réflexion et du bien-être collectif. C'est important qu'on soit défié dans nos raisonnements. Sinon, on ne serait jamais à la recherche de la vérité et du bon sens. Mais d'être haineux, injurieux, impoli, irrespectueux, ça n'a pas sa place et ça doit être dénoncé. Et c'est pour ça qu'ici, je prends le micro pour dénoncer cela. Mesdames et messieurs, ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que Bell Media a congédié Jeff Filion pour un tweet malhabile qui faisait preuve d'énormément d'insensibilité, du moins de la façon qui a été lancée. Et là, on va quand même assez loin avec les propos de M. Cyr à l'égard de Richard Martineau, mais Bell continue à commanditer cet événement-là. Deux poids, deux mesures. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Voulez-vous pousser cette discussion-là avec moi? Écrivez-moi à leblogueur@ericlantier.net. leblogueur@ericlantier.net. Mais il y a des choses qui sont graves, mesdames et messieurs. Ça, c'est grave, mais il y a d'autres choses qui sont graves. Les crimes qui sont en hausse à Montréal. Pas tous les crimes. Ce que la presse nous dit, c'est que ce sont les crimes graves qui sont en hausse à Montréal. Pas moins de 19 435 crimes graves contre la personne ont été rapportés dans la métropole en 2015, une hausse de 4,5% en un an. L'augmentation est particulièrement aiguë dans le cas des agressions sexuelles en hausse de 17% et des tentatives de meurtre qui ont bondi de 75 à 111. Les agressions sexuelles, mesdames et messieurs, sont en hausse de 17%. C'est incroyable. Vous ne trouvez pas? Il y en a eu 1299 en 2015 contre 1110 en 2014. Savez-vous quoi? 17%, là, vous allez dire, ouais, mais ça veut dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre de 83%. Ce n'est pas 100% d'augmentation. On ne l'a pas doublé. Non, mais faites juste y penser, là. Imaginez que vous êtes un groupe de 6. Vous allez dîner ensemble à tous les deux semaines, le jeudi midi. C'est le jour de la paye. Vous êtes un groupe de 6, là. Puis en 2014, rien ne s'est passé. En 2015, il y a une personne sur les 6 qui a été agressée sexuellement. 17 % c'est une personne sur 6. C'est énorme, ça, mesdames et messieurs. Mais ce que Le Devoir nous révèle, sur le même thème, dans un article qui s'intitule « Criminalité en baisse, crimes graves en hausse », on nous dit que la criminalité a une fois de plus diminué en 2015, révèle le rapport annuel du service de police de la Ville de Montréal, dévoilé mardi soir. Le nombre total de crimes a reculé de 2,5 % l'an dernier. Vous allez dire, attends une minute, est-ce qu'il a baissé ou il a monté? Les crimes graves ont monté et les crimes qui sont jugés moins graves ont baissé. Maintenant, on se réjouit de ce que les crimes moins graves ont baissé, mais les crimes graves ont augmenté. Donc, ça prouve une chose, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Ça, c'est clair. Le cœur de l'homme étant porté vers le mal, eh bien, il y a un remède à cela. Ce n'est pas la religion, mesdames et messieurs. Ce n'est pas de tenter de devenir meilleur, mais c'est de découvrir la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ça, ça transforme un être humain. Il y a des choses, par exemple, qui contribuent au mal, qui contribuent justement au vol, au crime organisé, même à certains meurtres. C'est toute la criminalité qui est autour du trafic, de la vente et de la consommation de la drogue. On en parle beaucoup parce que le gouvernement Trudeau veut légaliser la marijuana d'ici le printemps 2017 ou autour du printemps 2017. Mais il y a un très bon article de l'actualité. Je vous encourage à lire cet article qui s'intitule « La fumisterie du cannabis médical ». Et ça nous explique que du point de vue médical, la marijuana thérapeutique n'a pas énormément de vertus. Elle en a quelques-unes. Et moi, je me dis, si la science démontre que le cannabis médical a des vertus, eh bien qu'on l'utilise pour des raisons médicales et non récréatives. Mais savez-vous quoi? Selon cet article, la plupart des recherches qui disent que le cannabis médical a des vertus thérapeutiques, eh bien, sont appuyées sur des recherches qui ne font pas l'unanimité ou sur des données qui ne sont pas suffisamment fiables. Et savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Et ce ne sont que certains cas de malaise qui peuvent être soulagés par le cannabis thérapeutique. Maintenant, ce qui arrive aussi, ce qu'on explique là-dedans, c'est que le THC, donc la substance qui produit un effet, eh bien, le problème, c'est qu'elle contient plus de 70 cannabinoïdes différents et que les études ne sont même pas capables de comprendre cet amalgame-là puis toutes les variances de leur interaction chimique. C'est incroyable. Et donc, il y a beaucoup de médecins qui n'osent pas prescrire du cannabis thérapeutique parce qu'ils ne sont pas convaincus scientifiquement de la valeur médicale du cannabis. Maintenant, toutes les autres drogues qu'on a traitées avant de les rendre légales ou avant de les utiliser dans le monde médical ont passé par des tests et ont subi des recherches, des investigations beaucoup plus poussées. Et là, avec des recherches et des investigations moins poussées, on légalise le cannabis thérapeutique. Et même plus, on va le rendre légal, non pas pour des raisons thérapeutiques ou médicales, mais pour des raisons récréatives, mesdames et messieurs. Il va falloir être vigilant et ça va être important de se prononcer auprès du gouvernement Trudeau parce qu'il n'est pas encore trop tard. Et j'aimerais terminer avec un autre article à cause que le temps file, que je vous invite à lire. La Thaïlande donne victoire judiciaire à un couple homosexuel qui a eu recours à une mère porteuse. On voit ça dans la presse. Et ce qui est intéressant, ou ce qui est particulier, c'est que selon Wikipédia, l'union civile gay, le mariage gay et l'adoption par les gays ne sont pas légales en Thaïlande, mais ils ont donné raison au couple gay. Et en rafale, les bonnes nouvelles du jour. Eh bien, une étude de crédit a été déposée et le secteur bioalimentaire, eh bien, va être aidé, soutenu par le gouvernement du Québec. La stratégie de croissance du secteur biologique assortie d'une enveloppe de 9 millions de dollars sur 3 ans qui aidera les entreprises agricoles à répondre à la demande croissante pour les produits frais, diversifiés et de qualité, de même qu'aux préoccupations des consommateurs en matière de santé, de saine alimentation, de protection de l'environnement, de bien-être animal et d'approvisionnement social. Une autre bonne nouvelle, c'est fait, Madison ouvre un premier restaurant en Ontario. Donc, Madison, qui est membre du groupe alimentaire MTY Incorporé, qui a son siège social à Montréal, eh bien, ouvre un restaurant Madison en Ontario. Et, dernière bonne nouvelle, 115 nouveaux emplois dans l'industrie des technologies financières. IOCS ouvre à Montréal son premier centre nord-américain de développement de logiciels. Ça, c'est intéressant, mesdames et messieurs. Et sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, je vous invite à m'écrire à leblogueur@ericlantier.net, leblogueur@ericlantier.net, et d'ici là, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!